France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, comment réconcilier la gauche? Quel avenir pour elle dans la France d'Emmanuel Macron? Quelle place et quel rôle pour les formations qui siègent à la gauche de La République En Marche à l'Assemblée Nationale? Ont-elles vocation à travailler ensemble et le souhaitent-elles vraiment? Question posée alors que le PS ou ce qu'il en reste ne sait plus trop où il habite, que les communistes et les insoumis se regardent en chiens de faïence et que les Verts ont disparu de l'hémicycle. Face à l'hégémonie du parti présidentiel, la gauche peut-elle se payer le luxe de rester désunie? On pose la question ce soir en direct de la Fête de l'Humanité. D'ailleurs, y a-t-il meilleur endroit pour s'interroger sur le sujet à l'issue d'une semaine marquée par les premières manifestations syndicales contre la réforme à venir du Code du Travail? Pour en débattre avec nous, le député communiste des Bouches-du-Rhône, Pierre Dharréville, bonsoir.
Bonsoir.
La députée insoumise de Meurthe-et-Moselle, Caroline Fiat, bonsoir à vous.
Bonsoir.
L'ex-député socialiste de Paris, Pascal Cherki, bonsoir Pascal Cherki.
Bonsoir.
Et Laurence Perron du service politique de France Inter. Rebonsoir Laurence. Pour interroger nos invités, pour les interpeller, le standard, le numéro c'est toujours le même, le 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite un premier appel qui nous vient de Villeurbanne, celui de Jean Robert. Bonsoir Jean Robert.
Bonsoir Claire. Et bonsoir à vos invités.
Bienvenue à vous.
Moi j'ai vu le titre Réconcilier la gauche. Et je me suis dit, il manque quelque chose. Hein. Réconcilier la gauche avec qui? Avec quel peuple? Et surtout, avec quelle idée de la gauche? Parce que ça fait beaucoup d'années que cette idée de gauche, elle est un peu galvaudée. Donc voilà, j'aimerais avoir cette réponse-là, ce complément réconcilier
mais vous-même, Jean-Robert, vous avez une petite idée
Une petite idée. Alors, j'ai entendu votre invité, Mme Pinson-Charlot, je trouvais qu'elle avait une belle idée de la gauche, par exemple.
Mais pour vous, ce serait important que les différentes formations puissent s'unir et parler d'une même voix?
Moi, je m'en fous des différentes formations. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un programme commun, comme quand j'étais gamin en 1973, et qu'on se dise, être de gauche, c'est ça. Être de gauche, c'est refuser les inégalités. Être de gauche, c'est faire payer des impôts plutôt que de faire payer des taxes à des gens qui n'ont pas d'argent. Par exemple, c'est aussi con que ça. Voilà. Et je salue tous les lecteurs de abcdetc.com. Je fais de la pub un petit peu parce qu'il y a beaucoup de pubs sur France Inter. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Robert. Qui veut réagir en premier à ce que vient de dire Jean-Robert? Pierre Dharréville?
Oui, ben, je trouve que notre auditeur pose les bonnes questions.
Dans c'est-à-dire
qu'on,
c'est ça,
oui, mais c'est-à-dire qu'on peut pas prendre la gauche comme ça, en dehors, isolément, comme si le monde politique était un monde à part. Je crois que vraiment, il y a besoin de réconcilier l'idée de gauche avec d'abord ce qu'elle aurait jamais dû cesser d'être, parce que pendant 5 ans, moi, j'ai passé 5 années dans la rue, en réalité, sous François Hollande, et je pense qu'il a profondément abîmé l'idée de gauche.
Quand vous dites dans la rue, c'est-à-dire à manifester.
À manifester, tout à fait. Oui, oui. Et donc, je crois qu'il y a besoin de retrouver le sens de cette idée, le sens profond, qui est un sens émancipateur, qui vise à lutter contre les inégalités, à défendre les valeurs fondamentales de notre République qui ont été bien abîmées ces dernières années. Donc, je crois qu'il faut effectivement remettre tout cela à l'ordre du jour et puis essayer d'en discuter, de poser le débat là-dessus. Bon, la deuxième chose qu'il faudrait dire, c'est que nous savons bien qu'il y a eu des dégâts énormes. D'ailleurs, le résultat des élections montre que c'est une catastrophe politique au bout de ce quinquennat de François Hollande. Donc, je pense qu'il y a, effectivement à travailler, pour conclure mon propos, il y a effectivement besoin de travailler à rendre cette idée vraiment en propriété populaire. Et je crois que ça n'a pas été suffisamment fait ces dernières années.
Caroline Fiat, de la France Insoumise, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Robert de Villeurbanne?
Mettre
à plat le programme avant toute chose, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais. Parce que, enfin voilà, nous, moi, pendant les campagnes, on est beaucoup comme ça. Quand on allait militer dans les rues, les gens, ils s'en foutent d'entendre de droite, de gauche, de milieu. Enfin, ils savent même plus ce que ça veut dire. Donc, réconcilier avec la gauche, c'est-à-dire avoir un même combat commun. C'est reconnecter les gens avec la politique, ce qui n'a plus lieu. Personnellement, et je n'arrêterai pas de le dire, ma circonscription était ingagnable. Ce qui m'a fait gagner, c'était quand les gens nous disaient de toute manière, la droite, la gauche, c'est tous les mêmes, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas ce que c'est que notre vie, et que je répondais, je suis maman de 4 enfants et aide-soignante, ils prenaient le tract en me disant, ok, toi tu peux nous représenter parce que tu sais ce que c'est. Et donc je pense que le plus important, c'est que c'est plus de fonctionner en guerre d'ego en disant, moi je veux ceci, toi tu prendras cela, c'est plus ça. C'est qu'est-ce qu'on fait pour que les gens vivent mieux, pour qu'en France on ait plus ces 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. pauvreté, pour qu'on ait une solution rapide à trouver. Donc arrêtons ces guéguerres si elles existent, mettons-nous à travailler ensemble, sans réfléchir à une ambition politique ou à une ambition future complètement stupide, parce que de toute manière, c'est bien les électeurs qui choisissent, et à l'heure actuelle, ils ne sont plus que 4 sur 10 à se déplacer pour aller voter. Et donc, trouvons ce projet commun, trouvons cette bagarre commune, et allons-y ensemble, et après, on pourra discuter sur qui fait quoi.
Voilà, d'accord. D'abord, un programme, Pascal Cherki, c'est ça pour vous aussi ?
Non, mais moi, je suis d'accord avec ce que viennent de dire Pierre et Caroline. Je pense que les convergences ne doivent pas être des convergences d'appareils, même si à un moment donné, il faudra que nous, les responsables politiques, dans nos formations respectives, on se pose la question de comment on aide et comment on n'est pas un frein à ça. Mais d'abord, il faut qu'on ait la volonté de bâtir ensemble un projet commun qui permette de reconstruire un imaginaire populaire et qui permette surtout de penser le monde dans lequel on vit, de le transformer. Moi, une des leçons que je tire de la défaite à laquelle j'ai été battu, moi, aux élections ou d'autres, de ce qu'on appelle la social-démocratie ou la pensée réformiste, c'est qu'aujourd'hui, cette pensée qui recherchait à faire des compromis n'est plus opérante. Et que la question aussi paradoxale, c'est un socialiste qui vous le dit, un ancien socialiste, c'est qu'il faut...
Vous êtes toujours socialiste, Pascal
Cherki ?
Oui,
je suis de cœur, après, de parti...
Vous n'avez pas suivi quand même Benoît Hamon qui
est... Si, je l'ai suivi, bon, voilà, après...
Lui, il a carrément quitté le Parti Socialiste, vous y êtes encore ?
Benoît Hamon était précurseur pour beaucoup de choses. Je vais revenir sur la question du fond. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on revienne à une pensée radicale, au sens où Marx l'appelait « prendre les problèmes à la racine ». Et ce qui monte aujourd'hui, partout dans le monde, on regarde, France, en Europe, ailleurs, surtout depuis la crise de 2008, c'est une contestation radicale du système. Et je terminerai mon propre introductif en vous disant, si moi, il y a une chose que la défaite de 2012 m'a fait redevenir, c'est anticapitaliste. Alors, je suis pour qu'on en rediscute, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est de ça dont il faut qu'on parle. Des compromis, on aura peut-être à en bâtir, mais il faut qu'on réfléchisse à la manière de créer le rapport de force suffisant, et pour ça, il faut partir d'un point précis qui est de croire, qui est de penser, et moi je le pense vraiment, qu'aujourd'hui le système capitaliste, on pourra en discuter économiquement, écologiquement ou autre, n'est plus capable de donner à l'humanité les moyens de son émancipation. C'est ça le point de départ de la réflexion de la gauche. C'était ça au départ qui l'a fait émerger à la fin du 19e. Alors après, on le dit tous avec nos mots différents. Nous, on l'a dit avec la notion de futur désirable, on insiste sur la question du travail, du revenu universel. Peu importe la manière dont on rentre dans ce débat-là. Mais si on n'est pas d'accord avec cette question-là, on sera toujours englué dans les sables mouvants du réformisme et de l'échec de cette pensée politique partout en Europe et dans le monde.
Alors, Laurence Perron ?
Oui, je suis frappée là par le terme anticapitaliste, parce que pour avoir suivi la campagne de Benoît Hamon, ça a été assez peu prononcé. Finalement, c'est ce qui pourrait vous relier, vous, communistes et France insoumise. Est-ce que finalement, il y a une mue qui est en train de se faire du côté justement de la gauche hamoniste autour de cette notion d'anticapitalisme qui pourrait du coup fédérer cette gauche ?
Quand on regarde, je ne veux pas monopoliser la parole, mais quand on regarde aujourd'hui la contradiction dans laquelle se trouve l'économie capitaliste. Je veux dire, c'était une économie qui a fonctionné sur le principe de ce qu'on appelle l'accumulation de capital, l'extorsion de la plus-value, la survaleur, donc le travail salarié. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, en tout cas dans les centres occidentaux du capitalisme, c'est que pour se maintenir, à cause de la financiarisation, ils expulsent de la force de travail vivant. Voilà. Et donc, on est dans une situation nouvelle qui donc amène une réflexion par rapport à ce que c'est la relation traditionnelle qu'on avait à l'économie capitaliste. Deuxième élément, et c'était tout le débat sur l'économie fossile. Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a le réchauffement climatique, c'est pas simplement parce que nous-mêmes, on a des modes de consommation individuels qui sont pas bons. C'est parce qu'il y a une assise économique qui fait l'économie de la marchandise, l'économie fossile, le réchauffement climatique. Donc on ne réglera pas, par exemple, la question du réchauffement climatique et de la transition énergétique dans le système capitaliste si on n'engage pas une bagarre forte et fondamentale contre. Et ça, c'est une évolution qu'on ait un certain nombre à faire. Et je pense que tout le monde doit faire cette évolution-là. Bon, tout le monde, parce qu'aujourd'hui, personne à gauche a la réponse globale. Et donc si on est d'accord avec ce constat, alors après, les convergences, on pourra les construire plus facilement.
Alors, on va repartir au standard de France Inter, mais dites-nous quand même, Caroline Fiat, Pierre Dharréville, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire là de Pascal Cherki ?
Ah ben, bah, que notre fond commun, c'est l'anticapitalisme, moi, je suis d'accord. Hein.
Ben, moi, j'espère, parce qu'effectivement, on se rend compte que la domination de la finance aujourd'hui sur nos sociétés est la cause de la quasi-totalité de nos problèmes. Donc, il faut bien s'attaquer à ça. Il faut s'attaquer au pouvoir de l'argent. Et je crois que c'est la raison d'être de la gauche. Le combat de la gauche, c'est celui-là. Et donc, c'est ce combat que nous avons essayé de mener. Et j'ai l'impression, moi, que d'abord, Emmanuel Macron, avec le projet qui est le sien, qui est un projet qui, clairement, dans les premiers actes, qu'il a posé est un projet de droite, est en train de réveiller un certain nombre de choses dans le peuple français. Et donc les mobilisations qui se font jour, celles du 12 qui viennent de se dérouler et celles à venir, je pense qu'elles vont poser les exigences d'une unité. Parce qu'il faut se rassembler pour faire face à ces attaques brutales.
On repart au standard de France Inter. Cette fois, c'est Emmanuel qui nous appelle de Limoges. Bonsoir Emmanuel et bienvenue.
Oui, eh bien, bonsoir à vous. Donc moi, je rappelle que Limoges est la ville où a été créée la CGT en 1902. Et donc, et l'Écho du Centre, le dernier journal communiste régional, par Alphonse Denis, mon grand-oncle. Et donc voilà, déjà ça c'est ça. Et après, voilà, vous n'en avez pas marre à gauche de vous faire la guerre alors que vous avez une feuille de papier à cigarette d'écart. C'est-à-dire que il faut écouter Mélenchon maintenant, c'est Dieu Mélenchon. Mélenchon, c'est quand même pas un mec que. Il est rentré en politique en 76, j'avais 6 ans. Donc maintenant c'est le gourou de la gauche, mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'il y ait des jeunes plus jeunes qui véhiculent d'autres idées. Il faut pas. Et les insoumis, moi j'ai pas pu voter insoumis aux dernières élections. Parce que c'est pas possible, alors que je suis profondément à gauche et qu'il va falloir absolument que la gauche s'unisse.
Et vous, c'est pas la personnalité de Jean-Luc. Pardon, Emmanuel, c'est la personnalité de Jean-Luc Mélenchon qui vous pose problème ?
Bien sûr, bien sûr. Jean-Luc Mélenchon, il est. Pour moi, c'est Mao, quoi. Enfin, c'est un Mao mal embauché, en plus. Voilà, qui est insupportable avec sa petite veste, son petit machin, et qui a généré au niveau de la jeunesse plein de choses. Avec Hamon, ils n'ont pas pu s'entendre. Alors cette semaine, il a dit, si j'étais président, Hamon aurait été Premier ministre. Oui, bah, j'y crois pas deux secondes déjà. Et puis nous, communistes, on a peut-être autre chose à proposer, et même si on n'existe plus, le communisme a quand même des belles heures devant. Et ce matin, vous aviez un intervenant qui est écrivain et qui est néerlandais, qui a fait des utopies réalistes. Eh bien oui, il y a des utopies réalistes, il va falloir se battre. Mais on se battra pas avec des gens qui sont déjà dans le système depuis 50 ans, quoi.
Merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir interpellés. Moi, je vais peut-être poser la question à Caroline Fiat. Caroline Fiat, je crois savoir que vous avez été au Parti communiste, qu'à une époque, vous étiez très réticente, justement, face à la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez changé d'avis, qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, mais moi, en 2011, quand j'ai vu Jean-Luc Mélenchon qui sortait du PS, arriver en disant... salut les copains, c'est moi qui vais refonder une vraie gauche. J'ai vu ça d'un très mauvais œil. J'ai voté Jean-Luc Mélenchon en 2012 à contre-cœur parce que, effectivement, je pense un peu peut-être comme le monsieur. Et moi, à cette heure-ci, ce que je peux dire, c'est que je regrette vraiment ce que j'ai pensé en 2012 parce que, à un moment donné, ce qu'il faut se dire, c'est que.
Mais n'empêche que si vous l'avez pensé, c'est qu'il y avait un souci.
Non, mais les médias nous vendent quelqu'un qui hurle du matin au soir. Donc si les gens suivent un peu dans l'hémicycle, je suis assise juste à côté de Jean-Luc Mélenchon. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, j'ai eu plus de fou rire ou de sourire avec lui que d'engueulade parce que je l'ai entendu hurler une fois et il y avait de quoi hurler. Mais il n'y a pas de Dieu Mélenchon. Ce que Mélenchon voulait faire avec l'Avenir en commun, c'était créer cette constituante et faire rentrer le peuple à l'Assemblée. Attendez, Paris gagné, Adrien Quatennens qui travaille pour EDF sur une plateforme téléphonique vient de rentrer à l'Assemblée. Moi-même, aide-soignante, maman de 4 enfants, je viens de rentrer à l'Assemblée. Daniel Obono qui est bibliothécaire. Le pari est réussi. Donc arrêtons de regarder. Alors effectivement, Mélenchon, c'est un vieux politicard, il a commencé en 1976. Mais son pari, c'est pas je veux arriver quelque part, c'est je veux créer une nouvelle force et des nouveaux jeunes. Et des nouvelles personnes qui étaient en dehors de la politique pour entrer dans l'hémicycle ou dans cette vie politique et avoir envie de refaire de la politique. Donc non, c'est pas un gourou, non, c'est pas notre chef suprême et il n'a pas une ambition et un ego surdimensionné parce que maintenant je le connais et il faut pas écouter les médias et tout ce qu'on nous vend.
Ah bon, alors Pierre Larréville, Jean-Luc Mélenchon, vous ça. Ce n'est pas les mêmes paroles que Caroline Fiat. Il joue perso ou...
Vous savez que nous n'avons pas toujours été d'accord par les temps qui ont couru. Je crois que nous sommes deux forces politiques différentes. La France insoumise est une force politique différente du Parti communiste français. Et en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble.
Alors, par exemple, effectivement... il appelle à manifester le 23 septembre. Est-ce que vous, communiste, vous irez ?
Mais il organise une manifestation. Oui. France Insoumise organise une manifestation. Bon, c'est tout à fait le droit de France Insoumise et ça peut participer à faire grandir un certain nombre de choses dans le pays. Bon, si on avait voulu faire une manifestation organisée avec l'ensemble des forces de gauche, on s'y serait pris autrement, sans doute. Voilà. Bon, donc la question pour moi, c'est de savoir comment on fait monter dans le pays un rapport de force différent. Et pour faire monter ce rapport de force, moi, je crois qu'il y a besoin de toutes les forces disponibles et notamment des forces sociales. Que ça va se passer, y compris de ce côté-là, dans le monde du travail, et qu'il va y avoir besoin que ce rapport de force monte encore, sans doute à un niveau supérieur que celui qu'on a connu au moment de la loi El Khomri. Donc je crois qu'il faut conforter tout ça, et il faut que l'ensemble des forces jouent leur rôle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que chacun soit respecté, et qu'on puisse rassembler largement chacun dans la diversité que nous représentons.
Vous irez ?
Le 23, j'ai un engagement qui est pris depuis un an, puisque tous les ans, je me rends...
Une marche pour la paix.
Au voile de la paix à Marseille, bien sûr. Et je crois que par les temps qui courent, eh bien, c'est un sujet qui mérite qu'on se mobilise pour le désarmement, et notamment le désarmement nucléaire. Voilà, mais cela étant dit, vous me posez la question.
Il enverrait une délégation. Oui, Pierre Laurent a dit ce matin qu'il enverrait une délégation communiste.
Mais bien sûr, vous me posez la question, je vous réponds. Mais tout ce qui peut permettre de faire grandir la prise de conscience de la gravité de ce qui est en train de se passer et les mobilisations, moi, j'y suis favorable. Nous avons distribué, les parlementaires communistes, un tract à 1 million d'exemplaires depuis la rentrée pour dénoncer le contenu de la loi travail et proposer des mesures alternatives pour un code du travail du 21e siècle qui mettent en pièces le pouvoir de la finance. Donc voilà, chacun va jouer son rôle. Vous nous demandiez tout à l'heure comment les parlementaires que nous sommes entendent le jouer. Ça fait partie des choses que nous allons faire.
Pascal Cherki, vous irez, vous, le 23?
Oui.
Benoît Hamon, il ira.
Il a raison. Moi, j'irai. Bien sûr, j'aurais souhaité une grande manifestation de toutes les forces politiques de gauche, tous les syndicats. Peut-être qu'elle viendra si le mouvement contre les ordonnances prend de l'ampleur. Mais après, nous, on n'est pas en état, on n'est pas en situation de l'imposer. Donc, on a choisi d'aller dans toutes les mobilisations qu'organiserait la gauche en leur disant, on est là, mais ce serait bien qu'on soit tous ensemble. Dans une initiative nationale. Par rapport à Jean-Luc Mélenchon, moi, je pense qu'il ne faut pas psychologiser les rapports politiques. Moi, je le connais bien, Jean-Luc. Ça a été un de mes dirigeants quand j'étais au PS. C'est un de ceux qui m'a...
Formateur.
Qui m'a formé politiquement. Et... Je connais ses immenses qualités. Je fais la différence entre ce qui est sa stratégie politique, qui est discutable en partie, mais qui n'est pas scandaleuse, et à un moment donné, ce qu'est le contenu de ce qu'il raconte.
Parce que là, il est par exemple, notre ami auditeur le rappelait tout à l'heure, il a bien dit, si Benoît Hamon avait retiré sa candidature, il serait Premier ministre et moi président de la République. Ça vous gratouille, ça vous chatouille.
On ne va pas refaire le débat, ce n'est pas de sérieux de dire ça. Je veux dire, l'unité, ça se construit, ça ne se décrète pas. C'est d'ailleurs une des difficultés auxquelles toute la gauche a été confrontée. Nous, on voulait faire des primaires de toute la gauche, ça n'a pas été le cas. On a fait des primaires socialistes, donc ça crée un problème, on est embarqué dans un truc. Le reste de la gauche, bon. Donc, ça doit être une leçon pour l'avenir. Bon. Je vais revenir juste très brièvement sur, et ça doit être une leçon pour l'avenir, si on veut créer les conditions de l'alternative. De l'alternative, pas de l'alternance. Sur Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce que nous, on a fait des années, le PS. L'hégémonie. Il veut se substituer au PS comme la force centrale, politique, qui, finalement, autour de sa force, organise et satellise le reste. Bon. Je ne vais pas lui reprocher d'avoir fait quelque chose que nous, on a fait pendant des années. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Ça, c'est une autre question. Bon. Et ça demanderait du temps. Moi, je n'en suis pas convaincu compte tenu des conditions objectives politiques. Mais je ne veux pas le diaboliser. Il fait ce qu'on a tous fait, nous, socialistes, pendant des années. Deuxième élément, il y a le fond. Bon. Moi, je prends très au sérieux la démarche de la France Insoumise. Du Parti communiste aussi, mais bon, Parti communiste, on a l'habitude de dialoguer. France Insoumise est une force jeune qui vient d'émerger. Je la prends au sérieux positivement sur un élément. Il faut en politique être honnête. Cette question de la radicalité qu'on a appelée le dégagisme, ils ont été les premiers à la voir et à la conceptualiser. Et donc c'est un élément dans lequel on ne peut pas dire « bah non, ça n'existe pas ». Donc c'est un élément, et je dirais même d'une certaine manière, c'est un point d'appui pour avancer. Après, ça ne peut pas être un projet en soi, le dégagisme. Et donc c'est là où on discute du contenu de ce qu'on veut faire. Et dans le projet de la France Insoumise, j'ai des convergences, plein de choses, et c'est intéressant qu'on en discute, mais j'ai aussi des désaccords et des divergences. Sur la manière dont on sort de la crise européenne, on pourra en débattre. Pas sur le constat, sur la manière de le faire. Sur le rapport au travail, moi je suis persuadé qu'aujourd'hui la question du revenu universel est une question qui sera centrale dans les années qui viennent, sur un certain nombre d'autres questions. Est-ce que ces divergences nous empêchent d'avancer, de dialoguer ? Je ne le crois pas. Et je pense qu'en politique, ce sera mon dernier mot, surtout quand on a la prétention les uns les autres d'où on part, de changer le système. C'est une œuvre tellement importante que nous avons la responsabilité d'acter nos convergences et la responsabilité de définir une méthode en commun pour essayer de surmonter nos divergences.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Au téléphone sonne ce soir sur France Inter au standard, Didier qui nous appelle de Besançon. Bonsoir Didier.
Bonsoir France Inter, merci d'avoir pris mon appel. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que la gauche soit unie. Moi je suis socialiste, hein. Mais je voudrais que ce soit le Parti Socialiste qui soit chef de file. Je veux pas de Mélenchon parce que je l'aime pas, il est trop extrême. Et puis bon, je sais pas qui est un socialiste, quoi, normal, quoi, genre social. Mais je dirais, il faut qu'on soit unis comme au temps du Front Populaire. Et si on se bat entre nous, on va à la défaite, quoi, je veux dire. Surtout contre Macron, qui est vraiment très méchant contre les ouvriers, contre les chômeurs, tout ça. Qui est de droite. Moi, j'ai voté pour lui, mais franchement, au deuxième tour, mais je regrette maintenant. J'aurais mieux fait de voter blanc comme j'ai fait en 2002. Ben bon, j'ai fait, c'est fait. J'assume mon vote, mais je regrette parce que je pensais qu'il allait faire des trucs comme ça, quoi.
Mais vous voudriez que la gauche soit unie. Merci, Didier de Besançon. Une fois de plus, un auditeur nous parle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que la question du leadership, on peut l'écarter? Est-ce que c'est possible de...
Mélenchon l'a écarté, hein. Il considère que le leadership, ça y est, la question est réglée. Il l'a dit à Marseille.
Non, mais c'est ça. C'est, moi, je sais pas où les gens voient que Jean-Luc Mélenchon fait tout, quoi. Enfin, ou dans enfin, ce cas-là, je comprends pas pourquoi j'ai pas eu beaucoup de vacances, hein, parce que non, on bosse tous, on a tous la chemise levée, on est tous à fond. Effectivement, c'est un tripin. Et je pense que c'est ça qui gêne, c'est un tribun, c'est quelqu'un d'intéressant quand il parle. Moi, quand j'entends le terme Jean-Luc Mélenchon, c'est un extrême. Le monsieur disait qu'il trouvait Macron méchant. Mais enfin, attendez, on vient de se faire tous insulter. Et là, c'est pas que les insoumis ou les communistes ou les socialistes. C'est des feignants, des cyniques, des extrémistes. Attention aux mots qu'on prend, parce que dans ce cas-là, on peut pas trop critiquer Macron si on utilise les mêmes mots.
Macron l'a pu !
Donc, faire attention...
En direct de la fête de l'humanité.
Donc, attention aux propos qu'on tient et arrêtons ce dogme de cette personnalité. Je sais pas, moi, on n'entend pas... Quand on parle des Républicains, on n'entend pas parler de Jacob ou de Ferrand Charles.
Caroline Fiat, nous sommes à la fête de l'humanité. Jean-Luc Mélenchon venait tous les ans à la fête de l'humanité. Cette année, il ne vient pas.
Non.
Pourquoi?
Non, alors, tout simplement parce que...
C'est quand même un signe fort, ça, de ne pas venir.
Non, alors, à La Réunion, et Jean-Hugues Ratenon, quand on était à l'hémicycle le 9 août, a interpellé sur le fait que beaucoup de personnes étaient en grève, que les écoles n'allaient pas ouvrir à cause de la fin des contrats aidés. Ils sont en grève depuis la mi-août. On avait les universités d'été, il y a la marche du 23 septembre, enfin bref. L'agenda était super compliqué. Il devait se rendre à La Réunion. C'est tombé ce week-end.
Il n'a pas eu peur parce que ça s'était mal passé l'année dernière?
Ben non, dans ce cas-là, il nous aurait dit de pas venir, quoi.
Non, mais peut-être que ses troupes, c'est différent.
Vous n'êtes pas Jean-Luc Mélenchon.
Non, je suis pas Jean-Luc Mélenchon, mais non, j'ai pas cette prétention-là. Mais non, mais faut pas y voir une image. Il y est pas allé parce que je sais pas, il avait pas envie de serrer la main à quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas ça. On voit ce qui s'est passé avec Irma à Saint-Martin et à Saint-Barth. Tout le monde s'en fout. C'est les dom-tom, c'est loin. Non, ils sont français. C'est la République française. Il s'est rendu auprès de nos concitoyens. Et effectivement, ça tombe en même temps que la fête de l'UMA. Mais enfin, on sera une dizaine de députés insoumis qui seront présents. Donc, on essaiera de le présenter au mieux.
Pierre Dharréville, sur cette absence de Jean-Luc Mélenchon quand même à la fête de l'UMA.
C'est son choix, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout ne tourne pas autour de Jean-Luc Mélenchon, et même tout ne.
Non, mais sauf qu'on est en train de parler ici de.
Oui, mais justement.
De comment unir.
Mais parlons de ceux qui sont présents. Là, on parle de celui qui est absent. Bon, voilà. Donc, il y a des tas de gens qui sont.
Il trouve juste qu'il a fait 19% à la présidentielle et que voilà.
Nous avons fait avec Jean-Luc Mélenchon un score de 19% à la présidentielle parce que moi, je considère qu'on est un certain nombre à y avoir notre part. Bon, donc voilà, il a été candidat, c'est très bien. C'est quelqu'un qui compte dans le paysage politique, mais la question du leadership, c'est-à-dire de la domination de quelqu'un, d'une personnalité, et puis éventuellement d'une force sur toutes les autres, moi je me pose pas la question de la politique comme ça, je ne fais pas de la politique comme ça. Pour moi, la politique, c'est une aventure collective, c'est comme ça que je vais mener ma campagne dans ma circonscription. Moi, si je suis là, c'est parce qu'il y a des tas de gens qui se sont engagés, j'ai été leur candidat, très bien, je vais faire le mieux que je peux mon travail, mais vous voyez, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans, et moi ce qui m'intéresse, c'est d'être utile. C'est de gagner. Et quand les gens nous appellent à l'unité, c'est ça que j'entends. Ils veulent gagner. Ils veulent pas de cette politique qui leur tombe dessus en permanence avec des coups antisociaux. Voilà. Ce qu'ils veulent, c'est que les choses changent dans la bonne direction. Ils veulent pas la marche arrière. Et notre responsabilité, c'est de construire cela. Et pour cela, eh bien, il y a besoin de tout le monde. Il y aura besoin de tout le monde. Et il faut que tout le monde soit respecté. Et donc, faisons des choses ensemble. Et tout ça, cette unité-là, ça ne se décrète pas. C'est un travail, l'unité. C'est un travail. Ce sont des débats.
Et quel chemin, surtout.
Et oui, il y a beaucoup de travail devant nous, effectivement.
Mais justement, en parlant de travail. Si par exemple, face à Emmanuel Macron, pour montrer que l'opposition est forte, il y avait une réunion de Pierre Laurent, de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon, j'imagine que dans l'opinion publique, ce serait quand même plus frappant que l'organisation de l'absence de Jean-Luc Mélenchon ou l'organisation de votre absence à vous le 23 à la manifestation.
D'abord,
une initiative de ce type-là serait quand même un premier pas vers l'union de la gauche, non ?
Mais j'espère que des initiatives de ce type-là viendront. Je viens d'un débat dans la Fête de l'Humanité. Il y a des gens qui sont intervenus. Certains étaient membres de la France Insoumise. D'autres se sont réclamés du Parti Socialiste et d'autres du Parti Communiste. Il y a sans doute des gens qui avaient d'ailleurs des opinions peut-être même un peu différentes. Bon, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avec tous ceux-là qui ont envie que les choses changent dans la bonne direction, encore une fois, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Voilà. Et je ne crois pas qu'il suffira d'une réunion entre grands leaders pour régler tout ça. Il faut que les gens se mobilisent. Ici, nous sommes très nombreux. Et tous les gens qui sont ici, en tout cas une grande partie d'entre eux, il y en a devant nous, là, aspirent à l'unité. C'est à nous de la construire ensemble. Elle se construira aussi sur le terrain. N'attendons pas que tout tombe dans
haut. On repart au standard de France Inter. Cette fois, c'est Patrice qui nous appelle de Damaris-sur-Sault. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. Bonsoir, Patrice.
Oui, c'est cela. Bonsoir.
Bonsoir à vous. Bienvenue.
Je pense que la défense de l'environnement et les milliers d'emplois solidaires qu'elle peut engendrer pourraient peut-être devenir une plateforme de reconstruction de la gauche et un point d'ancrage de défense des travailleurs. Je pense par exemple à un emploi pour une nouvelle politique agricole tournée vers le bio, une nouvelle politique vers la recherche d'énergie nouvelle. Et je pense aussi que la reconstruction de la gauche passe par le fait de tendre la main aux écologistes, mais aussi, et quelque chose qui a failli ces dernières années, par une certaine morale et une honnêteté intellectuelle. Je prends simplement un simple exemple. Le problème de la magouille, de la corruption des consciences Burs-IGO, qui a été largement cautionné par le PS via le député Bataille et le PC, et notamment dénoncé par Jean-Luc Mélenchon. Donc il faut peut-être que le PS et le PC arrêtent un petit peu ces malversations mercantiles et ces magouilles corruptrices.
Merci beaucoup, Patrice. Pascal Cherki a très envie de vous répondre.
Non, mais bon, moi, là où je suis d'accord avec ce que vient de dire Patrice, c'est que la question, ce qu'on appelle l'écologie, est maintenant devenue une question centrale. En tout cas, moi, politiquement, je considère qu'on ne peut plus, c'est ce qu'a dit Benoît Hamon à la campagne présidentielle, je ne peux plus être socialiste sans être écologiste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un lien intime entre la critique du libéralisme, de l'économie capitaliste, et la critique écologiste. L'économie, et je le dis, l'économie fossile, c'est lié intimement à l'histoire, au développement du capitalisme. La question aujourd'hui de la malbouffe, c'est lié au développement capitaliste de l'agriculture. Bon. Donc il faut qu'on porte des solutions nouvelles. Elles existent. Bon, on parle d'agroécologie, par exemple. On parle de la question des énergies renouvelables. Ça va demander chez nous des révisions déchirantes. Moi, par exemple, je suis devenu maintenant partisan qu'on mène deux fronts. Et la décarbonisation de l'économie, c'est-à-dire la fin des économies fossiles, et la dénucléarisation de la politique énergétique. Alors qu'avant, on disait le nucléaire peut être un substitut et tout. Ce sont des débats compliqués. Bon, mais il faut qu'on les mène. Il faut qu'on les mène au fond. Et donc, de ce point de vue-là, je suis d'accord. Voilà. Sur ces questions-là, et bien évidemment, à partir du moment où on avancera dans cette direction-là, et bien, tout le monde aura des choix à faire. Ceux qui pensent pour qui ce sera plus important de garder leur lien organique avec un certain nombre de grandes entreprises, et j'en dirai pas plus, feront ce choix. Mais ce qui est important, c'est nous, notre responsabilité politique, c'est de donner un débouché politique à cette conscience citoyenne qui se forme de plus en plus autour des questions écologiques. Regardez les mobilisations qu'il y a partout dans le monde, et je terminerai par là, notamment en France, s'il n'y a pas de gaz de schiste. Si on a été le premier pays en Europe à interdire la fracturation hydraulique, c'est parce qu'il y a eu des mobilisations de terrain en Seine-et-Marne, partout ailleurs, et donc qui ont pesé sur les forces politiques pour qu'on le fasse. Et cette question-là, elle est centrale aussi pour redéfinir la relation au refus du capitalisme et à la volonté de dépasser le libéralisme.
Je pense que là-dessus, Caroline Fiat, la France insoumise est sur la même longueur d'onde, hein, sur les questions environnementales. Jean-Luc Mélenchon les a mises au cœur de
l'avenir en commun, oui.
De son programme. Peut-être des divergences plutôt avec les communistes, notamment sur la question nucléaire, Pierre Dharréville.
Moi, je sais pertinemment que nous avons une image en la matière qui n'est peut-être pas tout à fait juste, d'ailleurs, qui ne correspond pas tout à fait à ce que nous sommes réellement. Parce que moi, je me sens très écologiste.
Mais et je pense il y a quand même toujours eu la défense de l'emploi avant tout du côté du Parti communiste.
Non, mais ça, je pense que c'est une caricature. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, notre auditeur vient de le dire, il y a un gisement d'emploi potentiel pour relever le défi environnemental qui, effectivement, est décisif. Et moi, je suis d'accord. On a signé pour 1 million d'emplois pour le climat et pour l'environnement. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de... Enfin, je pense d'ailleurs qu'il faut dépasser les caricatures, sinon on n'y arrivera pas. En revanche, je crois que l'écologie, si on veut vraiment mener une politique qui relève les défis qui sont en face de nous, ceux de la planète, elle va nous conduire à mettre en cause le pouvoir de la finance. C'est un peu ce que
exactement.
Disait
Pascal Charki.
Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que ce sont les logiques de profit qui nous conduisent à détruire la planète et la santé des gens de plus en plus. Donc il faut les mettre en cause. Le capitalisme, la finance, ça détruit l'humain et ça détruit la
planète.
Mais
Pierre, si je peux faire une incise, tu vois, par exemple, moi, ce qui m'a le plus choqué dans ce qu'a fait Macron, au-delà des ordonnances, c'est qu'il prend le monde à témoin en disant « Maker, planète, Gréter ». Et parallèlement, il enterre à moitié la taxe sur les transactions financières. Or, comment on peut tenir nos objectifs de la COP 21? Comment on peut financer la transition énergétique fondamentale dans les pays du Sud? Parce qu'ils nous disent « ceux qui ont le plus pollué jusqu'à présent, c'est les pays capitalistes du Nord ». Et ils ont raison. Donc, il n'y aura pas de transition énergétique mondiale si on ne finance pas les pays du Sud. Et où on va trouver l'argent si on ne le prend pas avec la taxation financière? Donc ça, sur des combats comme ça, en plus, on pense la même chose. Je pense que nous pouvons, et nous avons la responsabilité, la gauche, de nous unir pour donner de la force aux citoyens qui sont prêts à se mobiliser avec nous là-dessus.
Alors, je pense que vous êtes effectivement d'accord. Caroline Fiat, je donnerai la parole tout à l'heure, mais on va repartir une dernière fois au standard, parce qu'il est pratiquement 53. Et Martine, patiente au standard de France Inter, elle nous appelle de Fontenay-aux-Roses. Bonsoir, Martine.
Bonsoir. Je voudrais rebondir sur une remarque qu'a fait M. Cherki tout à l'heure et que les autres ont semblé approuver, qui était que tout le monde était contre le capitalisme. Alors, très bien, on est contre le capitalisme. Je pense que dans cette histoire-là, il y a une chose qui n'a pas été faite. C'est le bilan de décennies de pays dits socialistes qui avaient eux aussi rompu avec le capitalisme. Et moi, je me demande si le fait qu'une partie de la gauche, celle qui est autour de votre table, se radicalise comme ça aujourd'hui, c'est pas effectivement parce que ils ont oublié de faire la critique de ce qui s'était passé dans les pays dits socialistes. Et donc, être en rupture avec le capitalisme, c'est pas si simple. Ça suppose de penser une société d'économie mixte, de faire des compromis, bref, d'être plus près d'une gauche de gouvernement que d'une gauche radicale.
Mais quel compromis, par exemple? Donnez-moi un exemple
Pascal
de compromis.
Pascal Cherki qui vous interpelle, Martine, et puis après...
Ben, ça m'intéresse. Quel compromis, par exemple?
Eh bien, ça veut dire faire le compromis avec... Par exemple, bon, ben, si vous voulez un exemple, dans les lois travail qui viennent d'être adoptées, il y a effectivement un compromis avec des choses que veut le patronat et des choses que veulent un certain nombre d'organisations syndicales.
Un exemple.
Et je constate que plusieurs organisations syndicales ne se sont pas joints aux manifestations qu'a organisé la CGT.
Ça veut dire qu'elles y avaient trouvé en partie. Mais qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît? Moi, je comprends très bien qu'on soutienne un projet positivement. Quelle est la mesure concrète de compromis? Vous dites c'est bien, c'est un bon compromis et ce n'est pas un recul pour les salariés.
Écoutez, je ne sais pas si c'est mon avis qui compte absolument, mais si vous voulez que je réponde, moi, je pense que les négociations dans les petites entreprises, je pense que c'est une bonne chose.
Je pense que
les négociations d'entreprise, tout en préservant les branches, comme ça a été acté dans les ordonnances, je pense que c'est une bonne chose.
Alors maintenant, est-ce que vous avez vu la position de la CFDT, Martine? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que portait cette centrale syndicale, c'est que quand il y avait des négociations des entreprises, ça se fasse sur la base d'un mandataire syndical extérieur à l'entreprise, pour ne pas laisser le salarié dans le base de l'arbitraire du rapport de force d'une petite entreprise. Or, justement, sur cette question-là, ce sera fait par un seul salarié.
Mais pardonnez-moi, Martine, et pardonnez-moi,
même
Pascal Cherki.
Même les centrales syndicales réformistes sont en désaccord là-dessus, madame. Regardez leur position, c'est intéressant.
On va bientôt conclure cette émission, hein. On va faire un dernier tour de table. Pierre Daréville, vous souhaitiez peut-être réagir à ce que vous venez d'entendre, là?
Ben oui, parce que moi, je n'oppose pas les choses entre une gauche de gouvernement et une gauche soi-disant radicalisée, comme vient de le dire notre auditrice. Moi, je veux gouverner, mais je veux gouverner pour changer les choses et pour effectivement, faire face. Je pense que le capitalisme, le système capitaliste est au cœur des problèmes que nous rencontrons. Et donc, il faut le mettre en cause aujourd'hui. Et évidemment, il y a des choses à inventer, à construire. Moi, je vous le dis tranquillement, hein, les leçons de ce qui s'est passé à l'Est, ça fait un moment qu'on y réfléchit et qu'on les a tirées pour ce qui nous concerne. Donc moi, j'ai pas de modèle de ce point de vue-là. Le modèle, j'irai pas le chercher dans le passé. Voilà. Donc nous avons besoin de construire l'avenir autrement. Et moi, je ne crois pas que la loi, les ordonnances soient des ordonnances de compromis. Je crois qu'elles ont été écrites par le MEDEF.
Merci beaucoup, Pierre Daréville. Ce sera le mot de la fin pour vous. Caroline Fiat.
Non, bah, comme le disait Pierre, effectivement, les ordonnances, il y en a qui peuvent peut-être être contents, mais enfin, c'est les idées de Gattaz, hein, c'est pas les idées de Macron. Hein. Donc, il y a un moment donné, faut se poser. Alors, effectivement, il faut, si on peut toujours vivre dans le passé, hein, mais si à un moment donné, on pouvait regarder devant nous et dire, bah, allez, on tente ça, on voit ce que ça donne et travaillons ensemble pour le faire. Je sais qu'au Parlement, on travaille ensemble. Le groupe La Nouvelle Gauche, France Insoumise et GDR, on a réussi à se rassembler pour déposer un recours constitutionnel par rapport aux ordonnances. Donc c'est possible, arrêtons de penser au passé, arrêtons de reparler de ce qui s'est passé quand on n'était pas né et travaillons pour un avenir meilleur.
En tout cas, si on laisse faire la finance, on va dans le mur, c'est sûr.
Ah bah oui, ça, on est d'accord.
Voilà, vous êtes d'accord, Pascal Cherki, le mot de la fin pour vous.
Oui, le mot de la fin, il sera au trait de 30 secondes. Donc, nous vivons dans un monde où quelques centaines de personnes détiennent autant de richesses que les 99% du reste de l'humanité. Nous vivons dans un monde menacé par le réchauffement climatique et des conséquences catastrophiques. Ce monde, c'est le produit de l'économie capitaliste et de sa société, de son imaginaire. Je pense que quand on a la volonté de réfléchir à un monde alternatif, on part comme point de départ d'une critique radicale de l'existant et on construit des modèles ensemble, nouveaux, et je suis d'accord avec Pierre, non pas issus du passé, on ne reproduit pas le passé, tenons compte des échecs du passé, mais je pense qu'un autre monde, ce qu'on appelle un futur désirable, est à construire, sinon, à la fin, on sera nous-mêmes complices de difficultés qui n'auront cessé de s'aggraver.
Merci Pascal Cherki, merci Caroline Fiat, merci Pierre Dharréville et Laurence Perron. C'est la fin de ce 18-20 en direct de la fête de l'humanité. Merci à toutes les équipes présentes ici et à celles qui sont à la maison de la radio. Merci notamment à Pascal Bresse, Véronique Lesage, Irène Ménahem, Juliette Gou, Alexia Lacour à la technique. Ce soir, Juliette Delperrou, Laurent César, Adrien Gaza, Loïc Frapsos. N'oubliez pas deux autres émissions en direct de la fête de l'UMA ce week-end sur France Inter. CO2 Mon Amour avec Denis Chessou, ce sera demain entre 14h et 15h. Demain, toujours entre 16h et 17h, Comme un bruit qui court avec Antoine Chao, Guy Vanctil et Charlotte Perry. Programme très riche à prévoir. Juste après le flash de 20h, vous retrouverez Laure Adler pour l'heure bleue.